plus de 2 millions d'enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère en RDC s'ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Déclaration du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Selon des sources onusiennes, parmi les 2 millions d'enfants menacés de famine, près de 300 000 sont dans la région du Kasaï. Quel tir faire de cette situation humanitaire? C'est le débat de ce soir et nous avons au téléphone professeur Kankout Bejele, il est directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï central. Bonsoir professeur Kankout Bejele.
Bonsoir.
Ici au studio, nous avons docteur Freddy Mbakata, il est directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement ADES en sigle. Cette ONG collabore avec le HCR. Bonsoir docteur Freddy Mbakata.
Bonsoir.
Et Godé Kayembe, il est président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves d'ISADEL en sigle. Bonsoir monsieur Godé Kayembe.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
En RDC, plus de 2 millions d'enfants risquent de mourir de malnutrition aiguë sévère s'ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin, a mis en garde le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. Marc Laucock a séjourné en RDC du 11 et 13 mars où plusieurs provinces ont connu une détérioration des conditions humanitaires ces derniers mois. Lors de son séjour, il a aussi affirmé que la crise humanitaire en RDC est importante. Il faut agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin. Et selon le porte-parole du Programme alimentaire mondial, parmi les 2 millions d'enfants menacés de famine, près de 300 000 sont dans la région du Kasaï. Jean-Pierre Elali Coco pour le reportage.
Nous sommes témoins du pire de la souffrance humaine dans une des plus grandes et tragiques crises humanitaires du monde.
Ce sont là les propos du secrétaire général adjoint Marc Laucock devant la presse hier mardi à l'aéroport international d'Ndjili après sa visite à Kalemi dans le Tanganyika. Le chef de l'humanitaire aux Nations Unies n'a pas caché son exaspération devant les conditions de vie horribles des personnes victimes de l'insécurité due au conflit. Il faut selon lui, agir vite et ensemble pour venir en aide à quelques 13 millions de Congolais dans le besoin. Une façon de parer au plus pressé, c'est l'annonce faite par M. Laucock dans la foulée d'une conférence de haut niveau en avril prochain à Genève. Objectif, faire un plaidoyer afin de mobiliser 1,7 milliard de dollars pour juguler la crise humanitaire en RDC. Quel est alors l'engagement des autorités congolaises dans ces combats, M. Laucock?
Le gouvernement a déclaré qu'ils allouerait plus d'argent à l'aide humanitaire. Ils ont accepté de réviser la procédure de délivrance de visa pour les travailleurs humanitaires.
Pour la ministre du Commerce extérieur des Pays-Bas, Mme Sigrid Kaag, qui a fait partie de la délégation, il faut agir maintenant.
Il faut agir maintenant pour prévenir le pire qui ne devrait pas se passer.
Après la conférence de presse, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et sa délégation se sont aussitôt envolés pour New York.
Merci à vous, Jean-Pierre Elali Coco. Professeur Kankout Bejele, directeur de cabinet du gouverneur du Kasaï central, comment vous réagissez à cette sonnette d'alarme que tire le secrétaire général adjoint des Nations Unies?
Bon, la situation est bien évidemment préoccupante parce que nous la vivons, en particulier notre province, le Kasaï central, qui a essuyé un conflit sanglant dans le malheureux phénomène qui a opposé la milice du chef communal Sapou aux forces armées de la République. Et donc, vous comprendrez que le drame social qui s'en est suivi ne pouvait que conduire, entre autres, à la malnutrition, donc, sévère dans la région. Je parle de la région du Kasaï central.
Oui, professeur, vous reconnaissez, n'est-ce pas, que la situation est préoccupante. Avant que ces hauts fonctionnaires des Nations Unies ne puissent en parler, la situation était connue de tout le monde, et vous les rappelez. Les parlementaires ainsi que beaucoup d'acteurs de la société civile n'ont cessé, n'est-ce pas, d'exprimer leurs inquiétudes au sujet du sort de ces enfants. Mais du côté du gouvernement congolais, c'est toujours le silence absolu. Et comment vous justifiez ce silence des autorités de la RDC face à cette menace?
Il n'y a aucun silence, en tout cas, sur la situation. Je parle, en fait, de la province du Kasaï central. Le gouverneur Denis Kambay, aussitôt monté aux affaires, il va être 2 mois à peu près maintenant. Le gouverneur, donc, dans son programme d'action, a donné une part très très importante à l'intervention humanitaire pour sauver les familles victimes des atrocités connues dans la région. Et dans le budget qu'il a présenté à l'Assemblée et qui a été adopté, une part très importante est réservée aux interventions aux interventions diverses, donc liées au secteur agricole et rural, notamment à l'achat des intrants et à d'autres interventions, à l'accompagnement technique des producteurs pour justement faire face aux problèmes de malnutrition. Donc il n'y a pas de silence du tout.
Oui, parmi ces 2 millions d'enfants, 300 000 sont au Kasaï. Vous êtes censé, n'est-ce pas, avoir des informations sur ces enfants. Et quelle est leur situation aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours en brousse? Si oui, pourquoi ils ne rentrent toujours pas dans leur milieu d'origine?
Au Kasaï central, parce que je me focalise sur cette région, nous ne connaissons pas aujourd'hui des populations en brousse. Il suffit de faire l'axe Kananga-Chimbulu, l'axe Kananga-Bilomba et au-delà, vous verrez que tous les villages sont vivants. Nous venions d'effectuer un long voyage avec le gouverneur de province par route entre Kananga et la province angolaise de Lunda Norte. Et donc, nous avons pu nous rendre compte nous-mêmes que les villages sont vivants, toutes les populations qui étaient en brousse sont revenues, et tout le monde essaye de se remettre au travail pour que la situation ne reste pas comme avant.
Oui, vous dites que les villages sont vivants, et donc il y a, n'est-ce pas, possibilité de sensibiliser les villageois sur la nécessité de pratiquer l'agriculture ou l'élevage pour tant soit peu combattre cette malnutrition.
Oui, les populations sont en train d'être sensibilisées tous ces jours, et je venais de vous dire que dans le budget que le gouverneur de province a fait voter à l'Assemblée, une part très très importante, je l'ai dit tout à l'heure, est affectée donc à l'achat des intrants agricoles pour accompagner les paysans et donc combattre justement la misère qui les accompagne aujourd'hui, qui les caractérise aujourd'hui dans le secteur de l'alimentation et donc de la nutrition.
Voilà, donc vous êtes revenu plusieurs fois sur la part qui est réservée dans les budgets à ces problèmes. On peut savoir c'est de combien, en fait, en termes de pourcentage?
Bon, nous sommes une province qui vient de sortir de la guerre, comme je l'ai dit. Il faut dire que beaucoup d'efforts de redressement économique sont nécessaires avant de voir la province offrir plus qu'elle ne peut offrir aujourd'hui. Mais sur un budget de plus de 110 milliards, je peux vous dire que la part réservée aux interventions agricoles approche les 30%.
Les 30%. Et à combien le gouvernement provincial estime les besoins de ces 300 000 enfants
Non, les 300 000 enfants, ce n'est pas au Kasaï central, c'est dans l'espace Grand Kasaï. Au Kasaï central, je ne veux pas minorer, mais d'après les chiffres de la surveillance nutritionnelle mise en place par la Direction provinciale de la santé à travers la coordination provinciale du PRONANUT, il est fait état d'environ 35 000 enfants dans la province, donc à peu près Je n'ai pas calculé le pourcentage, mais je ne dis pas que c'est moindre. Donc les 300 000, ce n'est pas au Kassai central.
Voilà, les 35 000 qui sont au Kassai central, leurs besoins peuvent être évalués à combien, monsieur le directeur de cabinet?
C'est un effort qu'il faut faire, mais le gouvernement a pris toute la mesure de ce drame social. Et c'est pour cela que je vous dis que environ 30% du budget s'est réservé, en tout cas, aux interventions qui permettent d'alléger tant soit peu la misère de la population rurale, notamment dans le secteur nutritionnel.
Oui, mais il faut aussi rappeler qu'il n'y a pas que des enfants, les enfants qui sont concernés par ces problèmes. Hein. Il y a aussi des adultes. Hein. On a parlé
oui, nous le savons très bien, parfaitement bien. Et c'est pour cela qu'on n'a pas minoré la part de l'intervention dans le secteur.
Et vous êtes certain que cette part qui est réservée, n'est-ce pas, à la résolution de ce problème, sera effectivement orientée vers ces besoins-là?
Le gouverneur Denis Kambayi a été envoyé en province par la haute hiérarchie du pays et il a été élu avec cette mission spéciale de consolider la paix acquise chèrement donc par les forces armées grâce à la vision personnelle du chef de l'État, mais aussi de assurer le développement par tous les moyens qui sont à sa disposition et préparer les élections. Donc rien n'est oublié, rien ne sera pris au hasard, même si le temps qui lui est imparti est un temps extrêmement court.
Merci, je vais revenir à vous, professeur. Docteur Freddy Mbakata, vous êtes directeur général de l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement, ADES en sigle. Votre ONG collabore avec le HCR. 2 millions d'enfants risquent de mourir à cause de la malnutrition aiguë et sévère. Est-ce que vous êtes surpris par cette sonnette d'alarme, n'est-ce pas, que tire le secrétaire général adjoint des Nations Unies?
Non, on n'est vraiment pas surpris, mais plutôt ça confirme ce que nous savions déjà. Pour rappel, je vais vous dire qu'au courant de l'année passée, notre ONG a obtenu un financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour générer les listes de personnes déplacées internes dans l'espace Kassai, c'est-à-dire la province du Kassai central, la province du Kassai, la province de Kassai oriental, ainsi que les autres provinces qui étaient impactées, notamment dans les Kwilu, les Bandundu. Et durant cette opération, nous avons dû mener avec nos fonds propres une enquête nutritionnelle pendant la période allant du 5 au 25 août 2017. Et cette enquête nutritionnelle était menée spécialement auprès de des enfants âgés de 6 à 59 mois, auprès de femmes enceintes ainsi que de femmes allaitantes, spécialement dans les localités, dans les villes de Kikwit, Idiofa, Gungu et Mukoso. Voici les résultats que nous avons obtenus. Et ici, dans votre antenne, ici, dans la radio Okapi, nous avions déjà donné les résultats de ces enquêtes. Et les résultats de ces enquêtes ont été transmis aussi au PAM, le Programme Alimentaire Mondial, l'UNICEF, le Fonds Humanitaire en RDC, les ACR, ainsi que la FAO. Les résultats obtenus sont les suivants. À Kikwit, la malnutrition aiguë chronique était de 32,5%. La malnutrition sévère était de 12%. La malnutrition aiguë modérée de 20,5%. Ces taux de malnutrition étaient déjà à l'époque au-delà du seuil de l'intervention de l'urgence. C'est-à-dire le seuil de l'intervention d'urgence était déjà dépassé en ce moment-là. Et nous avons déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous avions mené cette enquête avec l'antenne locale de la PRONIT de Kikwit. Donc, vu ces résultats, il devrait déjà avoir une action humanitaire, une intervention conséquente. Au moment où nous parlons, je suis désolé de vous dire, et c'est avec tristesse qu'on a déjà perdu beaucoup d'enfants. Et en ce moment où nous sommes en train de parler, les traitements pour les enfants qui sont en malnutrition aiguë globale ou en malnutrition aiguë sévère n'attendra pas l'argent qu'on va débloquer pour suivre la chaîne des dépenses jusqu'au décaissement.
Et donc, la vraie information, ce n'est pas celle selon laquelle les enfants risquent de mourir. Il faut dire que les enfants meurent des famines.
Les enfants meurent déjà. Si nous prenons l'espace Kassai, la crise est survenue quand? Le 8 août 2016. Toute l'année 2017, nous, notre enquête est partie du 5 août au 25 août 2017. Et nous tirions déjà à l'époque la sonnette d'alarme.
Et pourtant, docteur Freddy Mbakata, pourtant votre ONG, l'ADES, a offert, n'est-ce pas, 3 repas par jour aux déplacés à un moment donné. Cela n'a pas suffi pour,
ça n'a pas suffi pour
combattre cette malnutrition?
Ça, c'était pour soulager, en attendant que les grandes interventions puissent venir. L'action principale que nous avons menée, c'était de générer les listes. C'est-à-dire, il fallait connaître. S'est déplacé et interne s'est trouvé où? Il y avait combien de femmes? Il y avait combien d'hommes? Il y avait combien d'enfants selon les tranches d'âge, de 0 à 4 ans, de 5 à 11 ans, ainsi de suite, même des personnes de troisième âge? Combien de femmes allaitantes? Combien de femmes enceintes? Et ces résultats étaient obtenus. Mais pendant cette période, les repas que nous donnions, les 3 repas auxquels vous faites allusion, c'était simplement pour soulager la misère de ces gens. Parce que quand vous prenez, même si vous êtes dans la région du Kassai, les gens sont partis de l'intérieur pour venir se réfugier à Tchikapa. Mêmement dans la région du Kassai central, les gens partaient de l'intérieur, les gens ont fait des kilomètres et des kilomètres. Les gens arrivaient avec des plaies, les gens arrivaient démunis, ils n'avaient rien du tout. Et en ce moment-là, pour les enregistrer, il fallait quand même une action qui allait soulager tant soit peu la misère. Mais ce n'était pas la famine, la faim. Ce n'était même pas avec ce petit repas qu'on pouvait guérir des enfants qui étaient dans des situations de malnutrition aiguë chronique et aiguë sévère. Les cris d'alarme arrivent un peu tard. Nous en avons perdu beaucoup. Si on peut conjuguer maintenant les efforts, parce que c'est le secrétaire général des Nations Unies, adjoint, qui l'a dit, pour que tout notre pays, ainsi que les acteurs humanitaires, tous ensemble, nous pouvons conjuguer les efforts pour aider et sauver ceux qui sont encore malades aujourd'hui, ça serait le bienfait.
Merci Godé Kayembe, vous êtes président du conseil d'administration, n'est-ce pas, de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. 2 millions d'enfants menacés de famine, quelle est votre lecture par rapport à cette situation?
Oui, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes très inquiets pour l'avenir de notre République parce que les enfants qui constituent l'avenir de la République sont en instance de disparaître et nombreux. Et je sais aussi que la plupart d'enfants, parce qu'ils sont malnutris, tous ces enfants n'ont pas la chance de produire les choses nécessaires. Donc en fait, ce sont les enfants, la génération qui va hériter ce pays, mais cette génération qui n'a pas été prise en charge et qui risque de produire des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligence est aussi liée à la nourriture qu'on prend. Je sais que ce qui est déplorable, c'est qu'à ces jours, on compte plus de 4 millions de déplacés internes, si vous ne le savez pas. Dans le Kassai, parce que le monsieur parle, il est au Kassai, il y a plus de 370 000 déplacés dans le Kassai central. 335 000 déplacés dans le Kassai oriental. Et à Lomami, il y a plus de 123 000 déplacés. Et Kassai oriental, on parle de 48 000 déplacés. Toutes ces personnes et tous ces rapports, nous l'avons eu. C'est un rapport qui a été consolidé au mois de janvier. Le monsieur, il dit qu'il a su qu'avec le gouverneur et tout va bien. 370 000 déplacés.
Vous faites allusion à qui? Au directeur de cabinet du gouverneur?
Au directeur.
370
000 déplacés dans l'espace Kassai central. Et lui dit qu'il n'y a pas de déplacés. Et toute la situation va bien. C'est déplorable. Lui n'a pas fait l'enquête. Quel élément a-t-il objectif qui lui permet de confirmer cette affaire. Et en même temps, il dit qu'il y a eu 35 000 enfants qui sont dans le besoin. Est-ce, a-t-il mené l'enquête? Quel instrument a-t-il utilisé?
Il parle du conseil central.
Je parle du conseil central. Quel instrument a-t-il utilisé? On ne fait pas la politique avec la santé des enfants. On parle de 300 000 dans l'espace. Et d'ailleurs, ils étaient à 750 000, vous vous rappelez, il y a 4 mois, avant que l'intervention humanitaire. Et ils sont intervenus. Il y a eu beaucoup qui sont morts. Et ceux qui sont restés, beaucoup ont été épargnés. Mais on parle maintenant de 300 000. Lui parle de 35 000. En même temps, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il déclare que le gouverneur prend en considération toutes ces données. Ils ont fait un budget et ce budget a consacré 30%. Et en même temps, il n'y a pas d'intervention en urgence. Et en même temps, ces enfants sont en train de mourir. Donc, c'est la question, la préoccupation que nous avons. Est-ce qu'on donne de l'importance aux enfants? Est-ce que les gens savent que cet enfant qui meurt de faim, c'est une perte pour la République et pour la province? Est-ce que c'est une première préoccupation? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Je suis très inquiet. Si au niveau de la responsabilité, la gestion de la chose publique au niveau de la province, qu'on dise, d'ailleurs, je vous informe, si toutes les provinces peuvent être en difficulté, le Kassai central, c'est une province enclavée qui doit être plus de difficultés, parce qu'en fait, la ville de la province, la ville de Kananga est fournie par le train qui va du Kilebo à Kananga, qui va de Lubumbashi à Kananga. Et le train ne fonctionne pas. Donc les gens sont en détresse, la situation est dramatique. Et quand toutes ces personnes qui se déplacent, qui vivent d'abord en difficulté, qui se déplacent parce qu'ils fuient la guerre, toutes ces personnes, ils sont soumis à un régime très compliqué et beaucoup sont morts de faim. Donc la situation au Kassai central est dramatique. Ce qu'il dit, le directeur du cabinet, qui est professeur d'université, je crois, s'il dit qu'au Kassai, la situation a été maîtrisée, je regrette infiniment, parce que moi-même, je viens de là.
Oui, mais et comment peut-on arriver, n'est-ce pas, à améliorer la situation humanitaire au moment où les poches d'insécurité ne font que se multiplier à travers les pays? C'était le Kivu, on a parlé de l'espace kassaïen, et aujourd'hui, c'est l'Ituri.
Oui, je crois que le problème au Congo, c'est nous-mêmes. Parce que ce qui est dramatique, c'est que personne ne se pose la question. Comment les gens à l'interne peuvent se déplacer? Pourquoi la guerre continue? Pourquoi ces bombes continuent? Nous avons dans ce pays-ci la MONUSCO. La MONUSCO a plus de 15 ans d'existence au Congo. Plus de 12 millions de morts. 5 000 personnes tuées le même jour dans le Kassai dispersées en présence de la MONUSCO. Mais quand vous parlez avec la MONUSCO, on vous dit, si nous n'étions pas là, ça serait plus grave que ça. Et aujourd'hui, nous avons les gens qui, ce qu'on appelle, on a le gouvernement, qui ne prend aucune disposition. Alors, c'est alors que moi, à notre niveau, au niveau de... Quand je réfléchis davantage, je me dis, aucun État au monde n'a connu ce que connaît le Congo aujourd'hui. Aucun État. Nous ne sommes pas en guerre. Mais voici le drame. Les gens, c'est le déplacement interne. On touche les gens chaque jour. On coupe les têtes. On met la panique. Mais il n'y a pas d'intervention de la communauté de manière concrète. Même à l'interne, on ne voit pas quelles solutions faut-il proposer pour que cette population trouve la paix.
Dans la Lisadel, n'est-ce pas, dans sa vocation de défense des droits des enfants, quelles sont les initiatives qu'elle a prises pour essayer, n'est-ce pas, d'attirer l'attention des bailleurs des fonds, attirer l'attention du gouvernement congolais?
La Lisadel est la première organisation congolaise. Lorsqu'on a tué les militaires congolais, entrés dans deux maisons, dans le Kassai central, tué les femmes et les enfants, nous sommes la première organisation qui a fait la conférence de presse, qui a fait un communiqué de presse pour attirer l'attention de la communauté internationale. Nous sommes aussi la première organisation, lorsque nous avons appliqué à 750 000 enfants en détresse dans le Kassai, qui a organisé une conférence de presse pour demander et au chef de l'État et à la communauté internationale d'intervenir pour sauver la vie des enfants dans l'espace kassaïen.
Merci, professeur Kankou. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Butembo, au Nord Kivu.
Je suis Kakule Moutseke depuis Butembo, en province du Nord Kivu. En suivant l'évolution des événements dans mon pays, la RDC, il y a lieu de remettre la cause de sa souveraineté et de se demander s'il est déjà sous tutelle de l'ONU. Quand un État, qui se veut souverain, ne sait pas répondre aux besoins les plus élémentaires de sa population et que les alertes visant à la mobilisation des fonds viennent de l'extérieur, alors là, l'État n'existe plus que des noms. Il me semble que dans ces pays, le bien-être de la population ne constitue plus la priorité des dirigeants. Dans un pays comme la RDC, avec autant de superficie, des terres arables, c'est quand même honteux de parler de la malnutrition.
Oui, professeur Kankou Toubegélé.
Merci beaucoup. C'est Guy Maté, j'espère.
Oui, c'est bien Guy Maté.
Oui, je voudrais d'abord répondre à mon frère en face de moi qui, en s'adressant à moi, ne veut pas que je fasse la politique avec la situation des enfants. Je lui rétorque en lui disant que lui-même ne doit pas faire la politique avec la situation des enfants. Vous ne m'avez pas posé la question sur les déplacés internes. Vous m'avez posé la question sur la situation de malnutrition. Et j'ai répondu à la situation de malnutrition. En fait, aujourd'hui, les statistiques dont il se prévaut, lui-même, je ne sais pas ça vient d'où, parce que jusqu'à présent, ceux qui parlent des statistiques de la situation des enfants se réfèrent soit à l'EDES 2013-2014, il y a la MIX 18 qui est en cours, qui n'a pas encore donné des résultats. Et nous tous, nous nous fions aux enquêtes zonales, disons, mises en œuvre par dans les zones de santé, donc par les services de santé. Ici, les données dont je me prévaut moi-même viennent de la Direction provinciale de la santé, au travers de la coordination provinciale du PRONANUT. Je ne suis pas là pour faire la politique avec la situation des enfants. J'ai dit et j'ai répété que c'est une situation déplorable, c'est un drame social. Peut-être j'utilise des mots qui posent problème. J'ai dit que nous sommes face à ce drame social et qu'il nous faut faire quelque chose, d'où j'ai dit que le gouverneur Denis Kambayi, depuis qu'il est à la tête de la province, à travers toute, disons, à travers sa vision et les missions qu'il s'est assigné, prend à bras le corps cette question avec les maigres moyens qu'il a. J'ai dit bien, je l'ai dit, qu'il faudra beaucoup d'efforts de redressement économique de la province qui vient de sortir de la guerre en vue que la province puisse donner mieux que ce qu'elle ne peut faire maintenant. Donc, je suis en train de dire que le drame social caractérisé par la malnutrition est vrai et que nous devons tous faire quelque chose. Donc, qu'ils ne me comprennent pas mal. Et bon, que nous
professeur,
disons
professeur
que, allô, que
oui,
nous ne puissions
oui,
pas
professeur.
Que nous soyons assistés, c'est tout à fait normal, nous faisons tous partie de la communauté internationale et donc si la communauté internationale intervient avec des aides d'urgence, moi je n'y trouve pas d'inconvénient. L'essentiel, c'est comme mon frère de qui vous le dit, que nous puissions tous conjuguer des efforts pour sortir des interventions d'urgence et penser des solutions durables à la question de la malnutrition.
Oui, professeur.
Et ça, c'est notre devoir en tant qu'État.
Professeur Kankou Toubegélé, vous avez suivi le professeur, plutôt docteur Freddy Mbakata et Monsieur Godé Kayembe, qui affirment que les enfants sont en train de mourir. C'est vrai que vous avez affirmé qu'il y a dans les budgets du gouvernement 30% sont prévus, n'est-ce pas, pour faire face à cette crise humanitaire. Mais parce que les enfants sont en train de mourir, pourquoi il n'y a pas d'intervention d'urgence comme l'a relevé M. Godé Kayembe?
Les interventions d'urgence, nous en avons en particulier de nos partenaires. Et pour ce qui est de la situation du Kassai central, je viens de vous dire que le gouvernement du gouverneur Kambayi est dans le processus de sa mise en place. Le gouverneur Kambayi est élu le 21 décembre 2017, investi le 9, il est venu prendre possession donc de son trône le 19 janvier et c'est le 6 mars ici que son budget a été voté par l'Assemblée, l'organe délibérant, l'autorité budgétaire. Et je vous ai dit que au niveau de la politique, de sa politique, il est prévu toutes ces interventions et que il ne peut pas ne pas le faire. Et entre-temps, nous saluons les interventions des partenaires parce que nous ne pouvons pas nous en passer, nous appartenons tous à la communauté internationale.
Oui, c'est vrai que vous venez d'arriver comme vous l'avez rappelé, mais il y a ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Vous voulez dire que avant vous, rien n'avait été fait, n'est-ce pas, pour faire face, pour sauver les enfants qui
meurent de faim. Je ne peux pas être comptable de la situation à laquelle je n'ai pas participé.
Ok, Freddy Mbakata, docteur Freddy Mbakata, nous allons prendre aussi pour vous cette réaction qui vient de Kananga au Kassai Central.
Marc Kisambika, je interviens à partir de la ville de Kananga, province de Kassai Central. La détérioration de la situation humanitaire est un fait réel à travers le pays, notamment dans les provinces où les violations et attaques génocidaires ont et continuent à prendre leur bon train. Ceci étant, nous sommes consternés et qu'ils soient souvent les organismes étrangers qui évoquent et se préoccupent résolument des situations de crise en lieu et place du gouvernement qui est censé s'en occuper. Si nous étions dans un pays où réellement, où les lois restent les derniers remparts, l'on pouvait assister à la démission de tous les gouvernements. Ainsi, en quoi doit-on espérer des autorités qui restent toujours insensibles aux souffrances perpétuelles de leur peuple?
Docteur Freddy Mbakata.
Oui, je remercie notre ami qui est Mike qui intervient et qui nous interpelle tous. C'est-à-dire, devant ces drames, au lieu de se faire une guerre, on se jette les responsabilités, ça ne sert à rien une attitude pareille. Je l'ai déjà dit ici devant votre micro. Dans des pays qui sont développés, on planifie les actions arrivées. Les catastrophes naturelles, tout comme les guerres, tout comme les déplacements des populations dans nos pays, en Afrique ici, et surtout nous, en République démocratique du Congo, ce sont des choses que nous devons planifier. Et pour ce faire, on doit créer une banque humanitaire. Une banque humanitaire, c'est quoi? C'est une banque qui contient des effets de première nécessité que le gouvernement peut utiliser pour venir en aide à des personnes vulnérables, comme les déplacés qui fuient. Et parmi toutes ces populations, la couche la plus affectée dans ce genre de cas, c'est la couche constituée par les enfants, les femmes enceintes et les personnes de troisième âge. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une banque humanitaire? On a un grand des grands dépôts dans chaque province au niveau national. On y met les effets de première nécessité. Quand les gens fuient et qu'ils trouvent un endroit où ils peuvent se cacher, où il y a de la sécurité ou quoi, c'est de quoi ils auront d'abord besoin. Ce sont des abris. Ils doivent se loger, pas en plein air, mais on doit trouver des abris. Donc, dans cette banque, il peut y avoir des tentes. De quoi est-ce qu'ils auront besoin? Ils vont avoir besoin de l'eau, ils doivent puiser de l'eau. Dans cette tank, dans cette banque, il doit y avoir des bidons vides, il doit y avoir des réserves en eau potable, il doit y avoir les énergies, donc les articles non ménagers, les AME, les articles ménagers essentiels, c'est-à-dire les casseroles, les kitchen sets et tout et tout. Ainsi, dès qu'un drame pareil arrive, si notre gouvernement, si un gouverneur ou les ministres des Affaires humanitaires ou les ministres des Affaires sociales se déplacent 2-3 jours après ou une semaine après avec les effets pris dans cette banque, ça aura un grand impact et on va freiner les dégâts. Et si le gouvernement commençait une banque pareille, il y aura des personnes de bonne foi qui pourront contribuer. Même nous tous, les enseignants, les fonctionnaires, si on fait appel à eux, il y a des gens qui peuvent donner qui un bidon, qui une jerrycan, qui je ne sais pas moi quoi. Donc voilà, on doit se préparer.
Et donc,
on ne doit pas attendre.
Cela veut dire que la situation que nous déplorons aujourd'hui est liée, n'est-ce pas, à ces déficits
de préparation,
de planification.
Oui, on s'y les effets. Et puis on se réveille, le temps de se... Je l'ai dit, non seulement pour le gouvernant, mais aussi pour les humanitaires. La crise du Kassai est arrivée depuis le 8 août 2016. Quand est-ce que les premières interventions humanitaires sont arrivées? avec un grand retard. Voilà, et jusqu'aujourd'hui, on commence aussi à répondre. C'est-à-dire, les efforts doivent être conjugués.
Voilà. Okay, nous tous ensemble. Il y a aussi des reproches qui sont formulés à l'endroit des humanitaires. Il est dit que les humanitaires reçoivent beaucoup d'argent, n'est-ce pas, de la part des bailleurs des fonds, mais cet argent, malheureusement, sert seulement à ces humanitaires.
Je crois que c'est une méconnaissance des faits. Par exemple, en 2017, au niveau de fonds humanitaires en RDC, on a demandé 64 millions de dollars pour faire face à cette crise, notamment la crise de Kasaï. Mais combien ils ont récolté? Je crois moins de 3%. Comment fonctionnent les humanitaires? Il faut appel. Le temps qu'ils préparent la situation du pays, qu'ils rédigent les documents, qu'ils les déposent, qu'ils fassent le lobbying, le temps passe et les personnes qui souffrent, souffrent déjà. Donc on ne doit pas incriminer les humanitaires. Les humanitaires essaient de faire ce qui est possible de faire et nous devons conjuguer les efforts.
Et comment vous expliquez la réticence des donateurs?
Bon, il faut comprendre d'abord que la réticence des donateurs peut se comprendre. Depuis quand est-ce que notre pays ou les pays de l'Afrique centrale sont sous perfusion humanitaire? Vous me permettez le terme. Depuis la crise rwandaise, si je peux
donc,
descendre. Depuis 1991. Jusqu'ici, ils donnent. Et qui sont les grands donateurs? Ce sont les pays européens. Or, vous avez suivi récemment, en 2016 ou 2017, les pays européens ont eux-mêmes commencé à avoir des réfugiés sur leur sol, ce qui n'était pas avant. Donc, quand eux-mêmes font face à de pareilles crises devant une région qui est assistée depuis belle lurette, les donateurs se fatiguent.
Merci, Godé Kayembe. Une réflexion pour vous, elle vient de Kisangani.
Kisangani, la province de la Tchopo. Nous voudrions souligner que cela relève de la compétence de l'État, ou du moins d'un régime, qui ne peut pas prendre ses responsabilités à mort. D'autant plus que la question liée à l'assistance et à la protection sociale demeure une préoccupation de l'État qui aspire au changement, et c'est dans le but de subvenir aux besoins des vulnérables ou des plus démunis, et c'est dans un contexte de promotion sociale. Et je remarque que cette réalité semble être négligée par le gouvernement de la RDC. C'est ainsi que nous les exhortons à prendre conscience d'une bonne gestion de la reste publique.
Oui, monsieur Godé Kayembe.
Oui, notre ami, il a parfaitement raison. D'abord, je voudrais, d'abord, par rapport à l'intervention de notre ami du Nord Kivu, je voudrais signaler qu'actuellement, dans le Nord Kivu, il y a plus de 1 158 000 de placés. Et dans le Sud Kivu, il y a 647 000 personnes de placés. Donc, tout ça sont des problèmes.
Et qui ne sont pas assistés.
Toutes ces personnes traversent la vie la plus difficile. Les enfants meurent. Imaginez-vous, à Kinshasa, nous avons eu... lorsque le Kin-Est est envahi par les troupes rwandaises. Vous vous rappelez combien d'enfants...
Le RCD en 98.
En 98. Combien d'enfants sont morts à cause de la famine dans la ville de Kinshasa? Pendant trois jours. Trois ou quatre jours seulement. Mais imaginez-vous, cette population qui vit normalement, qu'on vient attaquer, qui se déplace, ils vivent dans quel état? Ils mangent quoi dans ce pays-là? Donc ça fait que la situation est dramatique, sauf que les gens... On ne sait pas si on a des parlementaires, si on a des politiciens dans ce pays. Ils n'en parlent pas. Si vous regardez bien, ils n'en parlent pas, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est avoir des jeeps, avoir des maisons. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut souligner. Je reviens. C'est l'État congolais qui doit se préoccuper de la gestion de tout ce qui est récolté à l'extérieur. Si la communauté internationale met à la disposition des humanitaires, parce qu'on l'accuse, les humanitaires, de pouvoir détourner le fonds destiné à la population. Mais ceux qui sont défaillants, ce sont nos dirigeants qui sont incapables de pouvoir gérer le fonds qui arrive dans cette République. Ils sont censés participer à la gestion, savoir combien on a donné, qu'est-ce qui arrive à sa population. Ce n'est pas leur affaire. Donc quand vous êtes distrait, les gens font leurs affaires. Je crois qu'il appartient à notre État de jouer son rôle. Il ne les joue pas. Voilà pourquoi nous arrivons à cette situation-là. Deuxièmement, les donateurs sont aujourd'hui fatigués. Vous imaginez que, c'est comme le docteur l'a dit, on a investi beaucoup d'argent. Et cet argent, quand ça arrive, ça n'arrive pas généralement entre les Congolais, le maire des Congolais. Ça vient avec les organisations internationales. Et dans d'autres pays comme le Rwanda, c'est organisé. Lorsque le fonds arrive, d'abord c'est le Rwandais qui doit gérer ce fonds. S'il ne le gère pas, on trouve quelqu'un qui a la compétence à celle de celui qui est international pour jouer. S'il n'est pas là, alors c'est l'international qui joue le rôle. Mais au Congo, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, on ne doit pas se plaindre. C'est nous qui sommes incapables de pouvoir nous assumer.
Et à votre avis, que faut-il pour améliorer, n'est-ce pas, la situation humanitaire? Vous avez suivi le docteur Mbakata qui a proposé, n'est-ce pas, une planification des actions à venir. Et à cet effet, il faut mettre en place une banque humanitaire.
Oui, docteur, il a raison. Ça, c'est à long terme. À court terme, que faire pour mettre fin à la famine qui tue nos enfants actuellement? Si nous avions des responsables, on devait d'abord s'adresser aux Nations Unies. Parce qu'en fait, pour ce qui est de la fin de la misère qui attaque un peuple, que de la crise humanitaire, n'importe quel État, même le Nord-Coréen, peuvent aller aux Nations Unies demander une assistance. Et ça, on leur donne, on ne peut pas le refuser. Mais notre pays, je crois que peut-être parce que nos autorités se reprochent du fait qu'ils gèrent beaucoup de millions dans les poches qui seraient destinés à la communauté. Ils se disent, au regard de ces afflux financiers que nous avons dans ce pays et que la crise arrive, si nous allons encore nous présenter devant la communauté internationale, c'est comme si nous allons nous vendre. On va voir que réellement nous ne sommes pas des bons gestionnaires. Mais en réalité, en principe, ils font de l'hypocrisie. En principe, ils devaient aller devant les Nations Unies, demander à ce qu'on puisse aider la communauté.
Professeur Kanku Tubegele, nous allons conclure. Que faut-il faire, n'est-ce pas, pour que on mette fin à cette situation?
D'abord, je voudrais, en tout cas cette fois-ci, être d'accord, marquer mon accord avec mon frère qui venait d'intervenir.
Godé Kayembe.
Mon frère Kayembe, lorsqu'il dit que le gouvernement doit avoir un regard dans la gestion de ce qui est récolté à l'extérieur. Parce que c'est de notre droit aussi, je le dis en d'autres termes, que les Nations Unies interviennent lorsque nous sommes frappés par des catastrophes. Et donc, nous devons avoir un regard sur ce qui est récolté. Là-dessus, je vous dis que la politique du gouvernement du Kassai occidental aujourd'hui est de mettre à la tête de la province une commission de concertation, mais surtout de coordination de toutes les actions des humanitaires et des partenaires au développement. Parce que nous devons voir clair dans tout cet argent qui est récolté. On dit que ce sont des millions, mais quand ils viennent, ils cherchent toujours quelque part à se dérober pour que nous n'ayons pas un regard dans ce qu'ils font. Nous, on a dit, il faut avoir un regard pour que ça profite vraiment à nos populations et que peut-être par là, nous puissions mettre fin à la misère.
Oui, avoir un regard, comme vous le dites, avoir un regard, n'est-ce pas, dans la gestion des fonds qui arrivent, mais aussi donner sa part en tant que gouvernement, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, mais je l'ai dit. Vous revenez sur ce que j'ai déjà dit, donc je suis heureux. Donc,
monsieur le directeur Gabinet, en conclusion.
En conclusion, j'ai dit que au-delà des interventions d'urgence, comme peuple, nous devons aller à la recherche des solutions durables. Et là, la communauté internationale doit toujours continuer à nous aider aussi.
Merci.
Tout cet argent qui est collecté et qui va dans des espèces du saupoudrage, on donne du maïs ici, on donne du manioc là-bas.
Merci.
Il faut imaginer des mécanismes d'intervention pour des solutions durables.
Merci, merci. Docteur Fridi Makata, vous allez aussi conclure. Il faut aller vers des solutions durables. C'est quoi, à votre avis, ces solutions durables?
D'abord, on doit distinguer les choses en deux groupes. Il y a des malades, des enfants qui sont malades aujourd'hui en état de malnutrition, aujourd'hui où nous parlons.
Donc il faut des interventions d'urgence.
Oui, pour cela, il ne faut pas beaucoup d'argent. Nous avons la chance dans ce pays d'avoir un personnel très bien qualifié, un personnel qui est sous le contrôle de Pronalide. Dans des centres de santé, que ce soit Kananga, Tchikapa ou n'importe où, il y a un personnel très bien qualifié. Qu'on aille voir ces enfants-là, on doit les traiter soit dans des centres de santé, soit à l'hôpital, parce qu'ils sont en malnutrition aiguë chronique ou bien en malnutrition aiguë sévère. Pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. qu'on ait un peu d'argent, qu'on amène, le personnel existe, qu'on les soigne. Merci. Pour les autres, on peut planifier, comme on le dit très bien, à long terme, et on verra ce qu'il faut. Mais il faut que cette situation ne revienne plus. De chaque erreur, nous devons apprendre une leçon. Merci. Et planifier nos interventions en conséquence.
Vous dites bien votre conclusion, Anemo.
À ce stade, moi personnellement, je pense que la charge revient au chef de l'État, qui est le garant de la nation, qui doit prendre des mesures concrètes pour que la paix revienne à notre pays et qu'en même temps, qu'il prenne la responsabilité de pouvoir s'adresser aux Nations Unies pour qu'on puisse, en urgence, aider notre population à sortir de la misère.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon soir de programme sur Radio Capi.